Voilà, on commence le cours d'aujourd'hui. On est le lundi 15 décembre et le 17 qui se lève, 18 qui se lève. On est à la page 260 du Tzemar Tzedek, Derech Mitzvotecha, le nom du livre. Et on est dans le chapitre Mitzvah Tatfila, la page 260. Et dans environ 5-6 lignes avant la fin de la page. Et on reprend. Aré, non, Umide Katav, on est 1, 2, 3, 4, 5 signes avant la fin. Umide Katav, She'achar, Shnitlabesh, Oren, Sof, Bechelim, Dechabad, Az, Shayar, Lomar, Mashekatav, Arambam, Huayodea, Vuameda. Comme on a expliqué hier et déjà depuis pas mal de cours, c'est seulement après que la lumière divine se soit contractée à l'intérieur des attributs divins, puisque les attributs divins sont des réceptacles qui limitent la lumière d'Hachem, puisque au niveau du Ensof, au niveau de l'infini, comme son nom l'indique, on ne peut pas le situer dans un nom précis, alors, et dans une qualité précise, alors que les attributs divins sont, on pourrait dire, représentent une qualité précise, une lumière précise, donc limitent l'infini de Dieu. Donc il a eu besoin de se contracter pour pouvoir s'habiller à l'intérieur de ses limites, de ses attributs. Je reprends la phrase. Umide katav she'achar shnitlabesh oren sof bekelim de chabad as she'ar lomar ma shekatav Rambam. Et donc ce que le Rambam dit n'est possible et n'est valable que lorsque il y a eu l'habillement à l'intérieur donc des attributs divins, et les premiers c'est chabad chokhma bina da'at. Areshu vechokhmato vedato echad mamash ve'en elokut ukemovar sham befanim. Et donc à ce moment-là, grâce à cette contraction donc de la lumière divine à l'intérieur des trois premiers attributs divins, automatiquement, il y a une sorte de fusion qui se fait à ce niveau-là entre le divin et ses attributs. Et c'est pour ça que les maîtres de la Kabbalah expliquent que dans le Olam Ha'atzilut, donc dans le premier monde où a lieu la rencontre entre la lumière divine et les attributs divins, à ce niveau-là, il y a une sorte de fusion au point que les attributs divins deviennent eux-mêmes de la Elokut, sont eux-mêmes, on pourrait dire, influencés par cette force divine qui est en eux et ont un fonctionnement, on pourrait dire, du type divin. Ça veut dire, comme on va expliquer tout de suite. Alors, Vezelechaora, Tarte des Satré. Et bien sûr, il pose la question, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une fusion entre le divin et les attributs dans le monde de Hatzilut? Comment c'est possible, puisque justement on a expliqué que c'est plus vraiment du divin, puisque c'est limité. Par définition, tout ce qui est divin est illimité. Dès que ça se limite, ce n'est plus du divin. Alors comment on peut dire qu'il y a une fusion entre le divin et les attributs dans le monde de Hatzilut, puisque qui dit attribut dit que c'est plus du divin, qui dit divin dit qu'il n'y a pas attribut. Donc, les Chaora Tarte des Satré, il y a ici donc une forme de contradiction. Ve'emet shekatav sham sheyichudo shemityached im midotav sheheitzil meito itbarach gam ken eno beprinat asaga. En vérité, il faut redire ce qui a été enseigné, c'est qu'en vérité, nous ne pouvons pas comprendre. C'est une réponse un petit peu facile. Quand on ne comprend pas, on dit on ne peut pas comprendre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. D'abord, qu'est-ce qu'il écrit ? Chez Yehudo, que l'unité, chez Mitiached im Midotav, comment Dieu s'unit à son monde, chez Tzil Meitou Barar, qui est le monde qui émane de lui, et non Beprinat Asaga, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, ça ne fait pas partie, on pourrait dire, des repères de notre intelligence cartésienne et logique. Et non Beprinat Asaga, la Sig, on ne peut pas comprendre, Mitiached Ba'em, comment il s'unit à elle. Velachen nikra imasfirot. Et c'est pour ça qu'on appelle les attributs divins ceux du monde de Hatzilut. Raza de Memnuta. On sait que dans le Zohar, on a des centaines de fois l'expression Raza de Memnuta, le secret de la foi, le secret de la Emouna. Et cette expression Raza de Memnuta fait allusion justement aux Sfirot du Olam Hatzilut, aux attributs divins qui sont dans le premier monde. Pourquoi on les appelle le secret de la Emouna? Le secret, parce que c'est quelque chose qui est complètement au-dessus de notre compréhension. Comment Dieu fait-il pour s'unir à ce monde-là, au monde de Hatzilut et à ses Sfirot? Et Me'emnuta en araméen, Emouna en hébreu, pourquoi ça réveille en nous la Emouna? Parce qu'on nous demande de croire, d'admettre par le biais de la Emouna, par le biais de la foi, qu'il y a, oui, une union entre l'énergie divine et ses attributs, bien que nous ne pouvons pas le comprendre. Je continue pour l'instant, puisque de toute façon on ne comprend rien. Velachen nikrim, je reprends, Asfirot, Raza de Mehemnuta, c'est pour ça que les attributs divins sont appelés Raza de Mehemnuta, donc le secret de la Emouna, chez Ia Emouna, chez les Malameh Asechel, et dit, dès qu'on dit Emouna, on fait donc allusion à quelque chose qui est complètement au-dessus de l'intelligence humaine. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, c'est sûr que quand on reste au niveau du texte, dans sa formulation, on pourrait dire kabbalistique, c'est évident que on ne comprend rien. C'est pour ça qu'il faut donner quelques exemples dans la vie concrète pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donnons un exemple dans le mal et dans le bien. Je commence par le mal parce que c'est malheureusement le plus facile et le plus fréquent. Un exemple dans le mal. C'est sûr qu'on a une émouna totale dans le fait que Dieu n'a pas abandonné le Betrabat de Bombay et qu'il gérait tout ce qui s'y est passé jusqu'à la mort de tous ceux qui s'y est trouvé. Celui qui parmi nous peut imaginer que Dieu dormait à ce moment-là et qu'il a laissé son monde entre les mains du Satan est ce qu'on appelle chez nous un apikoros, un kofer, un hérétique, et s'il touche notre vin, on n'a pas le droit de le boire. Pourquoi? Parce que c'est vadaï que le monde est entièrement entre les mains d'Hachem et que tout ce qui s'y passe est sous son contrôle. Donc il y a forcément à chaque moment et à chaque endroit une fusion, un lien, une unité réelle entre la lumière divine et ce qui se passe dans le monde. Maintenant, est-ce que l'un d'entre nous peut comprendre, peut expliquer, peut justifier ce qui s'est passé et expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce? Vadaï que non. Donc, ce n'est acceptable que par le biais de la Emouna, c'est-à-dire donc que l'âme juive est dotée du pouvoir, on pourrait dire, de ressentir qu'il y a quelque chose de émet, quelque chose, il y a une présence de Dieu, même dans un événement qui est révoltant, qui est inacceptable et qui ne peut en aucun cas être justifié. C'est-à-dire que la Emouna est plus forte que le Sechel. La foi est plus forte que l'intelligence, en ce sens qu'elle prend le relève sur l'intelligence lorsque l'intelligence perd les pédales. Et donc ça c'est un exemple. Alors maintenant, d'où ça nous vient cette possibilité de continuer à croire même lorsque notre intelligence ne suit pas? C'est grâce au monde de Hatzilut, comme je l'ai expliqué. Dieu, avant de créer notre monde, savait très bien que l'histoire humaine serait traversée par des cataclysmes qui sont complètement au-dessus de la compréhension humaine et que l'homme s'écroulerait dès le premier cataclysme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord créé le monde de Hatzilut. Ce monde de Hatzilut est un monde dans lequel il y a une lumière inimaginable, une lumière qui est plus forte que toutes les diversités de ce monde. Et notre âme est accroché à ce monde de Hatzilut. Et donc, ce qui fait que lorsque l'intelligence qui est en dessous de Hatzilut perd les pédales, à ce moment-là, notre âme allume son parachute, ouvre son parachute. C'est véritablement comme un saut dans le vide. Quand il y a une épreuve, l'homme est projeté comme d'un avion et il va s'écraser au sol. Et donc à ce moment-là, il allume, il ouvre son parachute. Son parachute, c'est les attributs du monde de Hatzilut qui sont au plus profond de son âme, parce que son âme aussi monte jusque dans le Olam à Hatzilut. Et à ce moment-là, ça lui permet justement de continuer à ressentir la fusion, la présence et l'unité avec Dieu, même lorsque l'intelligence a perdu le nord. Ça, c'est un exemple dans le mal. Un exemple dans le bien. Il y a aussi des événements bien qu'on n'a absolument pas la possibilité de comprendre. Et que si on va uniquement avec notre logique, on peut passer complètement à côté de l'événement. Rappelons-nous que c'est de cette manière-là qu'on a expliqué la prière que l'on fait trois fois par jour. Vetechezena eneinu beshuvcha l'etzion berachamim permet à nos yeux de voir quand tu reviendras à Tzion. Alors bien sûr, les commentaires posent la question, qu'est-ce que ça veut dire « permet à nos yeux de voir » ? Je dirais, ceux qui seront là verront. Et si la prière s'est fait que je sois là, alors on aurait dû prier « donne-moi le mérite d'être là au moment où tu reviendras à Tzion ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « permet à mes yeux de voir » ? Si je suis là, je vois, je suis pas là, je vois pas. Donc, or, pourtant ici, l'insistance sur le fait de voir. Et la réponse, on la connaît, on l'a déjà évoqué des dizaines de fois. Ça veut dire que nos maîtres prévoient que la délivrance pourra se passer sous nos yeux et on pourra ne pas la voir. Pourquoi? Parce que la délivrance, en tous les cas dans un premier temps, empruntera des chemins tellement mystérieux et tellement voilés que celui qui n'a pas le mérite de voir ne verra rien. D'accord ? Et donc il continuera à attendre la délivrance alors qu'elle a déjà commencé depuis longtemps. Comme le rabbi constamment disait et dit, il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que la délivrance est déjà là et elle se passe tous les jours davantage. Le rabbi, à partir des années 88, 87 et 90, n'en parlons pas, il n'y avait pas un jour, il ne disait pas, mais ouvrez donc les yeux, la délivrance est là. Et il disait, le Mashiach est déjà là, il nous attend, il est déjà assis à table et il attend qu'on vienne le rejoindre. Il a déjà ouvert la porte, il est déjà rentré, il suffit d'ouvrir les yeux. Et des phrases extrêmement, extrêmement fortes, comme pour nous faire comprendre que ce n'est pas évident. La délivrance peut être devant nos yeux et on ne la voit pas. Alors bien sûr, la délivrance à différents niveaux, ne me posez pas la question idiote, pourquoi il n'est pas venu en Israël, parce que j'ai répondu 100 000 et une fois que le Rabbi et le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, comme quantité d'autres tzadikim durant l'histoire, et sur Moshe Rabbeinu, il y a une gzera qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël jusqu'à ce qu'il se dévoile en tant que Mashiach visible aux yeux de tous. Et c'est pour ça que tous ceux qui dans l'histoire étaient un Gilgoul de Moshe Rabbeinu n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. On a eu la fameuse histoire du Baal Shem Tov qui est arrivé jusqu'à Istanbul. À Istanbul, il a dû rebroucher chemin et quantité d'autres. Et donc pourquoi ? Parce que la Xéra sur Moshe Rabbeinu ne sera levée que quand il reviendra véritablement en tant que Mashiach visible et accepté par tous, comme dit le texte Goel Rishon ou Goel Acharon. Donc en ce qui concerne le Rabbi, c'est la seule et unique raison pour laquelle il n'a pas pu. C'est pas qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu. Il savait que de toute façon, on le laisserait pas, et que s'il prenait l'avion, l'avion exploserait. De toute façon, il ne pouvait pas venir en Eretz Israël, seulement en tant que Mashiach visible et dévoilé aux yeux de tous.
Il y a un midrash connu, une histoire qui raconte que le Mashiach est venu, et puis il a dit aux gens, voilà, je suis le Mashiach, vraiment, il est venu.
Il y a une histoire à l'époque du Ari Akadosh, il y a eu des tas d'histoires.
Et les gens ne l'ont pas cru, il a insisté, personne ne le croyait, même les gens religieux, il est reparti.
D'accord. Ça s'est passé de très nombreuses fois dans l'histoire que le Mashiach est venu, il a essayé de se faire reconnaître, et on ne l'a pas accepté, et c'est reparti pour un tour. Le Ari Akadosh, c'est clair, Rabbi Chaim Vital le dit clairement, qu'il était le Mashiach, et qu'il a plusieurs fois tenté de se dévoiler. Et ça n'a pas marché. Il y a une histoire sur laquelle Rabbi Chaim Vital dit que des siècles ne suffiront pas pour que moi-même et les élèves du Hari fassions teshuvah sur le fait qu'on a empêché la délivrance du Mashiach. C'était une heure avant Shabbat, une heure ou deux heures avant Shabbat. Le Hari Akadosh était avec ses talmidim Matzvat et il leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord, on part tout de suite à Yerushalayim. D'accord, ça veut dire partir tout de suite à Yerushalayim, il faut plusieurs jours. Partir, ça veut dire faites-moi confiance, on arrive encore avant Shabbat. Et il y a quelques talmidim qui ont dit, bien sûr Rabbi, mais laisse-nous demander la permission à notre femme. D'accord. Et dès qu'ils ont dit ça, à ce moment-là, il s'est mis à pleurer, il a dit, Chaval. Et au bout de quelques minutes, il a repris le sourire, l'echadodilikrat kala, etc. Et Motse Shabbat, le Rabbi Chaim lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette décision de partir? Pourquoi ces larmes? Pourquoi un nouveau sourire, etc. Et il a expliqué que si vous m'aviez suivi sans poser la moindre question, je me dévoilais à Yerushalayim. Et on est reparti maintenant pour des siècles. Et donc, il y a effectivement des tentatives dans l'histoire, mais qui sont, on pourrait dire, soit par le biais on pourrait dire ce qu'on appelle achishena, des billets par le biais du surnaturel, comme le Ari Akadosh avec ses élèves, ou par le biais de Beita, l'histoire, avec tout le temps que ça prend. Et c'est justement quand ça passe par l'histoire et que c'est voilé à l'intérieur de l'histoire naturelle, entre parenthèses, qu'on ne voit pas forcément. Et donc c'est pour ça qu'on prie Veterezena et Neinu, montre-nous. Alors là aussi, il y a donc des événements inimaginables qui se produisent, inimaginables, une présence absolument incroyable de Dieu dans le monde et personne ne le voit. Et pourquoi ? Parce qu'on essaye d'analyser avec le sechel, avec l'intelligence, et au niveau de l'intelligence, on va dire oui, mais tu comprends, etc., etc. C'est qu'avec le biais de la emouna, quand on s'élève au-dessus de l'intelligence, que là on peut capter des lumières que l'intelligence ne peut pas capter. Maintenant, toutes ces lumières qui sont au-dessus de l'intelligence, dans le bien comme dans le mal, font partie de ce qu'on appelle Olam Atzilut. Oui.
David Amenef, il dit, Naïm Laem, Velo Yerouz, Naïm Laem, Yazim.
C'est ça la Maka, justement, de l'idolâtre. L'idolâtre, c'est celui qui est absolument incapable de voir quand une chose se produit. Je veux dire. Et on continue. Et donc, Et donc c'est ce qu'il explique. Ah, Rafal Piken. Donc bien qu'on a expliqué que le Yichud, l'union entre Dieu et son monde, très souvent échappe complètement à notre compréhension, comme on vient de l'expliquer. Ah, Rafal Piken, malgré tout, mais Voar Sham, il est expliqué. Pirush, Shaliede, Mashala, Or, Yuvan, Lanu, Ktsat, Inyana, Yichud, Ainshan. Malgré tout, on apporte un exemple qui est celui de la lumière, qui nous permet de comprendre un petit peu le à quoi ça fait allusion. Alors, on va continuer. C'est quoi l'exemple de la lumière? Ve'ayin be'igrot ha-kodesh. Regarde, dans le Tanya, dans la quatrième partie du Tanya qui s'appelle Igrot ha-kodesh, la lettre sainte, de'yu ve'garmui ha-kaché. Et des Yuvegar Moïslicha, sur le texte qui parle de lui, le lui Dieu, et les Sfirot, les attributs divins, Iksha Gamken, lui-même là-bas, le Tanya pose la question, Ech Ein Sof Khadim Gamoui, comment on peut imaginer que Dieu ne fait qu'un avec son monde, puisque le monde semble tellement contredire sa présence? Vetiret Sham, et il répond là-bas, Sha Kavana Lomar, que l'intention est de dire chez Emelokut Livro Yesh Me'ayin, qu'en vérité ce que signifie que Dieu fait un avec les Sfirot, avec les attributs du Olam Atzilut, signifie qu'il leur a donné à ces Sfirot le pouvoir Livro Yesh Me'ayin d'agir, de créer elle aussi selon le principe de Yesh Me'ayin quelque chose à partir de rien, Kemo Ein Sof, comme le Ensof lui-même, c'est-à-dire comme l'infini de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il a donné un pouvoir aux attributs divins de Hatzilut, de pouvoir donc créer Yesh Me'ayin Kemo Ensof, comme le Ensof lui-même. Velo Beprinat Aishtal Shelut, et les Sfirot du Olam Hatzilut n'ont pas besoin, quand elles veulent créer quelque chose, de passer par le processus de cause à effet.
Justement,
justement, il répond une réponse qu'on ne comprend rien, mais on va voir. Vetzarir Le'avin. Vetzarir Le'avin, c'est terre. Ne bombardez pas. Vetzarir Le'avin, je ne comprends pas moi non plus. Vetzarir Le'avin, et bien lui non plus d'ailleurs. Vetzarir Le'avin, et il faut comprendre. Les filles, Mashekatavtilael, d'après ce que j'ai dit plus haut, chez Enatzman, Gamken, Brinat Bria, ta question, votre question, il dit comment mon grand-père, c'est le Tzemar Tzedek, donc le grand-père, comment mon grand-père peut-il dire, justement, on a tous été choqués, que les Sfirot du Olam Hatzilut sont dotées d'un pouvoir divin qu'elles peuvent elles-mêmes créer Yesh Me'en. Ça veut dire sans passer par le processus de cause à effet. C'est-à-dire créer à partir de rien. Mais ça, c'est une action qui est purement divine. Comment Dieu peut-il doter des créatures de ce pouvoir-là? C'est exactement ce qu'il demande. Vetzarig Le'avin. Chez les films à chez Martilel, j'ai pourtant dit plus haut, et tout le monde sait, chez Enatzmam Gamken Bechinat Bria, que ces attributs divins sont eux-mêmes des créatures Yeshmeaï, qui ont eux-mêmes été créés à partir de rien. Ve'er Yecholim Livro Yeshmeim, comment elles sont dotées de ce pouvoir? Comment une créature est-elle dotée du pouvoir de Dieu? Alors, il va bien sûr expliquer, ne vous inquiétez pas, il va rapporter ce que dit, c'est très intéressant parce que c'est très rare, il va rapporter ce que dit le Maharal de Prague, ça nous permettra de parler un petit peu sur le Maharal de Prague aussi. Mais, d'abord, avant d'aller plus loin, on ne va pas répondre, bien sûr, puisqu'il va lui-même, pendant un très long texte, essayer de répondre à cette question. Mais on va d'abord s'arrêter sur le problème lui-même. Il faut comprendre que ce problème-là, ça a été exactement la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, sa faute a été, d'après le sens très 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 profond, qu'il a voulu justement ressembler à Dieu dans le pouvoir de créer. D'où on le sait. Rashi explicite, il ne s'agit pas de la Kabbalah, il s'agit d'un Rashi. On sait très bien que Rashi c'était le plus grand de tous les Mekoubalim, et la plupart des Rashi, surtout dans le Sefer Bereshit, ne peuvent pas être compris sans la Kabbalah. Mais qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit que quand le Nahash, quand le serpent leur a dit, Vaitem ke Elohim yode tov vera, vous serez comme Elohim et vous connaîtrez le bien et le mal. Bon, le pshat, c'est vous connaître le bien et le mal. Rashi refuse de lire le verset comme ça, c'est un pélé en tant que tel. Et Rashi dit, non, regarde comment qu'il faut lire le verset. Vous serez comme Elohim, et au lieu de dire Yode Tov Vera, Rashi traduit Yotzre Olamot. Vous pourrez vous aussi former des mondes. Alors, Tout le monde s'étonne sur ce Rashi. D'abord, pourquoi tu t'éloignes tellement du pshat du verset? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Ils seront comme Dieu. Qu'est-ce que le Nahash leur a mis en tête? Qu'ils seraient comme Dieu, qu'ils peuvent être Yotzre Olamot. Alors, très 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 brièvement, c'était ça, on pourrait dire, le fantasme de Adam Arishon, puisque le Nahash est le fantasme qui était en lui. C'est ça le fantasme, c'est qu'il savait très bien, au moment où il a été créé pour dominer le monde, et donc pour arranger le monde, pour le transformer, Asher bara Elohim la'asot. Tu as été créé, lui a dit Dieu, pour parachever ma création. Alors qu'est-ce que le Nahash vient lui apprendre qu'il ne savait pas déjà? Mais de toute façon, il aurait pu dire au Nahash, mais Kol HaKavod, merci beaucoup, mais je sais, j'ai été créé pour ça. J'ai pas besoin de cet arbre-là pour faire ma mission. Dieu m'a dit que j'avais été créé pour parachever son monde. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre que je ne sais pas déjà? Le Inyan était, c'est que le Nahash lui a dit, non, je veux que tu sois comme Dieu dans la création. Tu sois capable de créer comme lui à partir de rien. Comme lui, Yotzre Olamot, que tu puisses former des mondes sans avoir besoin de tout un préambule, de tout, un, on pourrait dire, un enchaînement de cause à effet. Je n'ai pas encore expliqué ce que ça veut dire.
Quand il dit voilà. Yotzer, il dit pas para.
Comment? C'est ce que ça veut dire. Ah. C'est ce que ça veut dire. Je ressens en train de... Pour Rashi dit Yotzer, je peux l'expliquer aussi. Mais c'est ce que ça veut dire. Que tu pourras être comme Dieu, comme Elohim, Yotzer Olamot, tu pourras former des mondes à partir de rien. Alors justement, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu pourras former des mondes à partir de rien? Alors justement, c'est là où on va la notion de Yetzira, et c'est la notion de Tov Vera. Ça veut dire que Adam avait compris que finalement, il ne serait qu'un exécutant. Ça veut dire que la matière première lui est donnée par Dieu, et lui ne fait que réaliser ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est plus ou moins ce que dit le verset « Asher bara Elohim, la asot ». J'ai commencé le travail, selon le travail que j'ai commencé, tu termines. Mais ce que Adam voulait, c'est être un inventeur. Créer à partir de rien, ça veut dire qu'être, on peut dire, sa propre source, sa propre référence. Et si j'ai envie de créer quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, si j'ai envie d'être mon propre Dieu, d'ailleurs, lui, quand il a décidé de créer comme ça, il a décidé de créer tant de sphirotes, tant de mondes, il a décidé de créer le haut, le bas, la droite, la gauche, il a décidé de me mettre un nez au milieu du visage, il ne m'a pas demandé mon avis, il a fait ce qu'il voulait. Moi, je veux être comme lui, dans mon pouvoir de créer, je veux créer à partir de rien, ça veut dire sans recevoir des indications au départ. Si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce qu'était, on pourrait dire, le fantasme de Adam Arishon, de ne pas être associé à Dieu dans la création, de ne pas être son compagnon, mais d'être son propre inventeur et son propre Dieu. Veitem
Kelohim. L'artiste utilisait la matière existante. C'est pas au niveau
de... Il ne s'agissait pas forcément de créer la matière à partir de rien, mais dans mon pouvoir créateur. C'est pour ça que c'est le mot Yetzira, formation. Dans mon pouvoir créateur, d'être comme Dieu, ça veut dire de pouvoir inventer ce qui me passe par l'esprit, et même si ça ne lui convient pas. D'accord, bah, on comprend, on dit comme ça que c'est la faute, c'est le péché mignon de tous les hommes. Quoi.
L'orgueil.
Voilà, c'est l'orgueil, c'est l'autosuffisance, etc. Je suis ma propre référence. D'accord. Donc d'une certaine manière, même en l'expliquant simplement, la faute de Adam Arishon, c'était justement de pouvoir justement être Yesh Me'ayin, de pouvoir créer quelque chose à partir de rien, dans le sens d'être sa propre référence. Maintenant, la vérité est, c'est que, toujours sans encore remonter dans le texte, c'est que cette force-là a oui été, elle existe, elle a été donnée aux tzadikim. C'est-à-dire, les tzadikim, sur eux, il est dit « Medamim et Tatsura leyotzra ». Ils sont capables de faire ressembler la création au créateur. Pourquoi? Parce que eux aussi ont le pouvoir de créer des choses qui ne font pas, d'une certaine manière, partie du, je dis entre parenthèses, du processus tel que Dieu le veut, et de s'imposer à Dieu et de l'obliger à changer ses projets et d'aller selon les projets que le juste a décidé. Tout ça entre mille et une parenthèses. Non, c'est ce que aussi. Non, mais c'est ce que dit d'abord la Gemara, enfin ce que disent nos maîtres, quand ils disent Akadosh Baruch Hu gozer, betzadik, mevatel. Le tzadik a la possibilité d'annuler une xéra. d'Hachem. Et c'est dit aussi dans l'autre sens, Tzadik gozer ve'akadosh baruch hu mekayem. Le tzadik peut décider une chose et akadosh baruch hu, il accepte. Donnons un exemple de ce que ça veut dire. On le voit à deux reprises dans la Torah. Pourquoi Avraham intervient pour sauver Sdom? Essayons de comprendre ce qui se passe dans la tête d'Avraham pour sauver Sdom. Vous me direz, ben, tout simplement, il prie. C'est-à-dire, il prie.
C'est un humaniste.
Mais c'est un humaniste, c'est un homme charitable. Bon, pour des gens comme nous, il n'y a pas de problème de prier. Parce que nous, on est humaniste, charitable et surtout extrêmement idiot. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire quand on prie. Mais si on réfléchit, attends, je ne comprends pas. Tu es plus charitable que Dieu, tu es plus humaniste que lui, tu comprends mieux que lui. Qu'est-ce que ça veut dire tu pries? Hachem vient et il te dit, d'accord, comme c'est remarqué dans la Torah, je suis descendu, j'ai fait un Bet Mishpat, et on ne peut pas soupçonner Dieu de faire un tribunal à la légère, d'accord. J'ai pesé tout le pour et le contre, et qui ne sait pas que je suis longanime et qu'avant de prendre une décision d'eux, il faut qu'il en passe de l'eau sous les ponts. Et je suis arrivé à la conclusion que Sdom n'avait plus le mérite d'exister, d'accord. Avraham ne sait pas ce qui se passe à Sdom. Avraham qui est le pendant de Sdom. À Sdom, on tue celui qui fait la charité. Avraham se tue pour faire la charité. Il ne connaît pas Sdom. Il ne sait pas qu'on vient de torturer à mort la fille de Lot parce qu'elle avait osé donner un morceau de pain à un pauvre. Il ne sait pas qu'on l'a enduit de miel et qu'on l'a jeté dans une fosse à abeilles. Il ne sait pas ça, Avraham. C'est la fille de Lot, c'est sa nièce. Il ne sait pas. Pour qui il se prend? Pourquoi tu fais le malin devant le bon Dieu? Pourquoi tu veux te montrer mieux que lui? Alors nous qui ne comprenons pas qu'on est apparemment idiot quand on prie, alors ça nous dérange pas trop de prier. Mais lui, Avraham, qui connaît tout ça, il ne peut pas se tromper sur la bonté de Dieu, sur la justice de Dieu et sur la sagesse infinie de Dieu. Si Dieu lui dit « j'ai pris la décision que… » De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Et on voit qu'il prie. Finalement, il n'aura pas gain de cause, mais pas parce que la prière était perdue dès le départ, parce que la condition à la prière, dès le départ, c'était de trouver au moins 10 justes. Donc, s'il avait trouvé 10 justes, Sdom aurait été épargné. Donc, puisque s'il avait trouvé 10 justes, Sdom aurait été épargné. Donc, posons l'action dès le départ. Toi, Dieu, s'il y avait 10 justes, tu aurais aussi épargné apparemment. Donc, pourquoi tu obliges Abraham à prier? Tu aurais dû tout de suite lui dire, écoute, il n'y a pas 10 justes, arrêtons là.
C'est d'accord. Une preuve, c'est une preuve, quoi.
La vérité est la suivante, c'est que Hachem dirige le monde selon des principes qui sont à lui. Et selon les principes qui sont à lui, d'accord, il comprend que arrivé à telle ou telle situation, il faut agir de telle ou telle manière. Ça, c'est selon les lois et les règles que Dieu a mis dans la création du monde. Et lui, il dirige son monde d'après les règles qu'il a créées. Et d'après les règles qu'il a créées, personne ne peut venir et lui dire tu te trompes. D'accord? Personne ne peut venir et dire tu te trompes. Un simple soldat ne peut pas rentrer dans le QG, chez le Ramatkal, et dire au Ramatkal, je regrette, monsieur le Ramatkal, toi tu es un. Je parle d'un bleu qui vient de rentrer à l'armée, il ne peut pas lui dire vous vous trompez dans vos décisions. Ça n'a aucun sens, tout le monde comprend. Donc comprenons bien que quand on prie, on ressemble apparemment à un soldat bleu. Un bleu qui rentre et qui dit au Ramatkal, vous vous trompez dans vos décisions. Si le type ne meurt pas de honte, alors il est fou. Donc c'est ce qu'on est en train de faire quand on prie. Alors qu'est-ce pourquoi on prie? Alors je réexplique. En vérité, l'homme doit savoir que Dieu a créé son monde selon des principes et selon des règles et selon des lois que lui connaît, que lui comprend, que lui respecte. Et personne ne peut les respecter, les comprendre aussi bien que lui et faisons-lui confiance. Donc il n'y a pas lieu d'intervenir. Seulement quoi? Dieu a donné la possibilité à l'homme avec un grand H, au juste, d'accord, de créer un nouveau monde. De créer un nouveau monde dans lequel il va obliger Dieu, si on peut dire, à se faufiler. Dieu fait tellement de kavod à l'homme qui le mérite, que c'est comme s'il lui disait, tu sais, regarde, moi j'ai créé un monde avec les lois 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, tu sais quoi? Si tu crées d'autres voies de passage, je suis prêt, moi Dieu, à abandonner mes voies et à avancer sur les tiennes. Vous imaginez le kavod qu'il fait à un homme? Et c'est ça ce que Avraham fait. Avraham, il vient chercher, lui dit Hachem, Attends. Je ne discute pas sur ta décision. Elle est bonne. Il n'y a rien à dire. Mais tu sais quoi, regarde. On va essayer maintenant de créer une nouvelle voie à laquelle tu n'as pas pensé, selon les principes du départ, et je t'oblige à venir sur ma voie. Dieu lui dit, c'est quoi ta nouvelle voie? Il lui dit, tu sais quoi? On va essayer de voir si quelque juste pourrait sauver un ensemble, une majorité de mauvais. Et sur ça commence le débat. Dieu n'avait pas prévu ça. Le chidouche extraordinaire, mes amis, ça c'est le chidouche du siècle, c'est que Dieu avait créé un monde sans cette possibilité-là. Dieu avait créé un monde qui va d'après la fameuse majorité. Mais c'est ce qui est marqué dans la Torah, Rabim la Hatot. Dieu avait créé un monde dans lequel c'est la majorité qui l'emporte. Et donc, Dieu savait, et Abraham savait que la majorité est corrompue, et selon cette règle-là, il n'y a pas lieu d'intervenir. Abraham n'est pas venu et n'a pas dit à Dieu, mais qu'est-ce que c'est ton jugement? Pourquoi tu juges d'après la majorité? Il sait très bien d'après la majorité, il n'a aucune chance, et que Dieu a raison. Mais Abraham dit, tu sais quoi, regarde, moi je suis comme toi, tu as créé un monde avec des lois, moi je vais en créer un aussi, un nouveau monde. Et dans mon monde à moi, une minorité peut sauver une majorité. T'acceptes le pari, mon Dieu? Hachem lui dit, tu sais quoi, regarde, je t'aime tellement, mon fils, que si tu arrives à me convaincre, je te suis.
C'est ce qu'il n'a pas fait, non?
Ça, c'est voilà. Ce que vous donnez comme explication, c'est décidé, non. Parce que c'est vrai que lui, il a d'autres règles et qu'il attend qu'on...
Il attend. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas un homme qui le fait...
Il le met en pointillé, c'est-à-dire il ne le crée pas, cette possibilité, mais il attend qu'un homme se lève pour la...
N'achot, bien sûr qu'il l'attend. Bien sûr que au départ... Hachem, quand il a créé l'homme, c'est ce qu'il attend de l'homme. Mais quand je dis que c'est une création à partir de rien, c'est en ce sens que Dieu ne le fera pas pour nous. Tout ce qui est ses lois à lui, il peut les appliquer sans nous. Ce qui est notre loi à nous, notre monde à nous, ça dépend de nous. Vous voulez que j'épargne ce d'homme, Bécédère. Alors, demandez-le.
Il attend ça.
Et sachez-le de moi. Il l'attend, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne fera rien pour le provoquer. C'est à ce niveau-là.
Et si on ne le fait pas, il nous le reproche.
Peut-être. Mais c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que véritablement l'homme a le libre arbitre.
Mais c'est contradictoire. Alors, il attend de nous, mais quand on.
Non, si un homme, de toi et moi, va d'ailleurs que pas, mais si un homme, il y a un homme comme Avram dans la génération, voilà, et c'est pour ça que Noah s'est fait engueuler. C'est pour ça que Noah s'est fait engueuler. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, quand il est sorti de l'arche et qu'il a vu le monde désert, il a dit, mais mon Dieu, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Hachem? Imbécile, fils d'idiot. Chatia bar chatia, imbécile fils d'imbécile. Je sais pourquoi son père c'est un imbécile aussi apparemment. Imbécile fils d'imbécile, c'est maintenant que tu ouvres la bouche? C'est quand je dis que j'allais détruire le monde qu'il fallait intervenir. Et pourquoi Adam, pourquoi Noé n'est pas intervenu? Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le secret qui est dévoilé par Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit Noé? Noé a dit, je comprends pas. Attends, le maître du monde, ça fait mille ans qu'il attend que l'homme fasse teshuva. Depuis la faute d'Adam Richon, notre déluge, il y a 1000 ans. Écoutez-moi bien. Et il y a 1000 ans que je sais que Hachem attend. En plus, quand il me demande de construire l'arche, il me demande de la construire pendant 120 ans pour que ma génération fasse teshuva, pour que des milliers de personnes me demandent et me filment, me fassent passer à la radio, à la télévision, pour que vous faites l'arche, etc., que le monde sache qu'il va y avoir le déluge. Ils n'ont pas fait teshuva. Qui je suis moi pour ouvrir la bouche et demander à Hachem de leur pardonner? Qui mieux que lui sait qu'il a tout fait? C'était ça son erreur. C'est qu'Hachem lui a dit, espèce d'idiot, j'ai tout fait selon mes critères à moi. Mais toi, homme, tu as le devoir d'inventer un nouveau monde. L'homme est un découvreur de nouveaux mondes.
Donc un bleu,
d'accord.
Un bleu peut changer le monde.
Comment?
Un bleu peut changer le monde.
Oui, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que, attention, un bleu ne peut pas changer le monde en tapant à la porte du QG en disant « Monsieur le Ramadkal, je pense que... » Mais par contre, sur le terrain, d'accord, si un bleu a reçu un ordre et qu'il sent que toute la troupe va au massacre et qu'il est pris tout d'un coup par un coup de génie et qu'il fait le contraire et qu'il réussit, il n'est pas mis en prison, il est décoré. Mais c'est sur le terrain lui-même, vadaï que le bleu peut le faire. C'est ça ce qui s'est passé avec Abraham.
C'est le secret de la trouvaille des filles de Tselophane et de l'institution du Pessar Chéni. chaque fois qu'il y a un blanc, bon, à un autre niveau, peut-être plus à l'Afrique, mais c'est quand elles ont vu qu'il n'y avait pas quelque chose qui était prévu, elles ont fait selon un raisonnement, elles ont proposé, Moshe a demandé à Hachem, il a accepté. Idem avec les Sarcheni, quand
absolument, absolument. C'est toujours la deuxième solution, la dernière solution. Alors maintenant.
Mais cet enseignement.
Regarde. Pas de bombardement, j'ai pas mis mon casque. Oui.
Quand Abraham il s'arrête à 10, pourquoi il s'arrête à 10? Parce qu'il sait que Noah, il n'a pas réussi à sauver le monde,
oui.
Il n'est pas à 10. Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête à 10, Noah?
Ça lui a été reproché après à lui aussi. Le seul qui s'est jamais arrêté, c'est Moshe. C'est pour ça qu'il est devenu Moshe. Il est devenu Goël. Moshe, c'est le premier. Non. D'abord, le premier qui a compris qu'il y avait un autre monde, c'était Abraham. Celui qui l'a amené, cet autre monde, à son accouchement, c'est Moshe. Voilà. Mais si tu veux, on pourrait dire que la grossesse, elle s'est passée avec Abraham et les Avot, et l'accouchement, c'est Moshe. Et justement, qu'est-ce qu'il fait avec Moshe? La même histoire. Hachem lui dit après la faute du déluge, d'accord, laisse-moi, je vais détruire Israël, et je vais recommencer un peuple à partir de toi. Quelqu'un du veau d'or. Quelqu'un soupçonne Hachem de mentir. Quelqu'un soupçonne Hachem de parler stam. Va-t'en que non. Pour Hachem, c'est clair. Et après une faute pareille, ils n'ont plus de srout kiyoum. Et en ce qui concerne la promesse faite au père, elle peut être faite à partir de toi. Je ressors un peuple juif à partir de toi. Moshe intervient, il change tout le projet divin jusqu'à ce qu'il arrive à Salartikit Varecha. Yom Kippour, 120 jours après le veau d'or, Hachem enfin pardonne après que Moshe soit monté plusieurs fois sur le 80 jours après le 80 jours 120 jours 120 jours après le veau d'or, Hachem pardonne. Donc 120 jours de prière et d'entêtement de Moshe pardonne, le premier Yom Kippour de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la même chose. Hachem a dit après une faute pareille, selon les critères avec lesquels moi j'ai créé le monde, il n'y a pas d'issue possible, si ce n'est que de ressortir un nouveau Israël de toi. Moshe lui dit, pas de problème Hachem, laisse-moi moi prendre le monde en main, je te recrée un nouveau monde. Il lui a fallu 120 jours pour recréer un nouveau monde, et on a eu Kippour, deuxième Louchot, et l'histoire juive a continué. Ça veut dire, mes amis, que depuis la faute du veau d'or et son tikkun, nous vivons par le mérite de Moshe. Et c'est pour ça qu'il y a un texte dans le Talmud où on est tous appelés Bnei Moshe, les enfants de Moshe. Parce que c'est Moshe, c'est le Am Israël, après la faute du veau d'or, c'est le Am Israël de Moshe, Kaviachol, plus que celui de Avraham, Israël et Yaakov. Le Am Israël de Avraham aurait dû disparaître avec la faute du veau d'or, s'est levé un homme qui était Moshe, qui a réaccouché le Ham Israël. Il l'a fait sortir à partir de lui. C'est pour ça que Moshe, pour nous, aujourd'hui,
comment
c'est...
Comment il aurait pu disparaître malgré tout?
Comment
il aurait pu disparaître?
Non, il serait reparti. Mais c'est ce que Hachem a dit, j'ai pas de problème. Moi, j'ai fait une promesse comme qu'il y aura Ham Israël. La promesse, je la tiens. Mais elle sort de toi maintenant. Tu vas faire 4, 5, tu vas faire 12 enfants, ces 12 enfants, on aura en nouveau 70, ça va très vite, chaque fois, elle met 6 enfants au monde. On aura perdu... On aura perdu 40 ans, on aura perdu 100 ans.
Bon, de toute façon. Il a de demander une caution, quelque chose en caution pour justement justifier ça. Il n'a pas donné les enfants.
Non, ça c'est pour Matan Torah. Pour Matan Torah. C'était avant le veau d'or.
Alors pourquoi non, parce que par rapport à ça, je voulais dire que Mordechai aussi ça a eu cette machava de sauver le peuple d'Israël avec les enfants.
Nahon, d'une certaine manière, ça va se répéter constamment dans l'histoire. C'est à chaque fois que le Ham Israël est devant une situation très très grave, se lève un ou des tzadikim qui reprennent le monde en main. Et Hachem les a dotés de ce pouvoir-là. Donc c'est ça, d'une certaine manière, on pourrait dire, les attributs de Hatzilut. Ça veut dire que Dieu a doté son monde de forces inimaginables qui permettent à l'homme de devenir le créateur, si on peut dire. C'est presque ça. Ah, donc on comprend maintenant quelle a été la faute de Adam Harishon. C'est que, comment expliquer des milliers de fois, c'était pas une faute en vérité. Le Nahash ne lui a pas menti. Le Nahash lui a simplement dit une vérité trop vite. Quand il lui a dit, mais Dieu attend de toi que tu sois comme lui, tu puisses créer des mondes. Il lui a pas menti. Rappelons-nous ce que dit le Ari HaKadosh. S'il avait attendu jusqu'à Motse Shabbat, il aurait fait Melave Malka sur cet arbre-là. Ça veut dire que, décoder, ça signifie quoi? Que, évidemment, que l'homme est destiné à être un associé à part égale avec Dieu et donc être capable de prendre des responsabilités, des décisions sans forcément toujours lever le téléphone, monsieur, est-ce que je peux ? Non, bien sûr. Mais ça, à condition que tu passes le Shabbat, à condition que tu sois un sadique, à condition que tu sois injuste, à condition que tu t'annules complètement devant Dieu. À ce moment-là, il te donne ces responsabilités-là. Mais si tu veux en faire qu'à ta tête, c'est ce que le Nahash voulait lui faire faire. À ce moment-là, ça ne marche pas. Et donc, ça existe sans exister.
Mais si on est appelé Bnei Moshe, que à ce moment-là, c'est quand même un phénomène incroyable de dire qu'on est Bnei Moshe.
Oui. On a été créé par Moshe, absolument.
Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas dans la Tfila donc Elohim Moshe?
Comment?
C'est
une très très bonne question.
C'est une préhistoire, c'est fini.
Parce qu'on cite Abraham, Isaac et Jacob, on cite Moshe aussi, on cite David, mais on ne cite pas Moshe. Alors la raison, et puis Kabbalah, c'est qu'en vérité, on ne cite que les Héaroth, mais on ne cite pas le Etsem. Ça veut dire par là que Moshe, c'est l'essence même de tous les Tzadikim de tous les temps. C'est-à-dire, au niveau de l'âme, sachez, comme je l'ai déjà dit il y a très longtemps ou peu importe quand, c'est qu'au niveau des âmes, il n'y a qu'une seule âme fondamentale créée, c'est l'âme de Moshe. Toutes les autres âmes sont des rayonnements de cette âme-là, y compris l'âme des Avot. Dans l'histoire, Moshe vient après Avraham, Yitzhak et Yaakov, dans l'histoire physique, biologique et historique, mais dans l'histoire nishmatique et ruchanit, bien sûr, il vient bien avant. En vérité, Dieu a créé une seule âme fondamentale qui est l'âme de Moshe. Une partie de cette âme-là est descendue dans Adam. Ouais, seulement Adam lui, il avait l'âme de Moshe. D'où on le sait. Vayi ha Adam le nefesh haya. Après la création de l'homme, il est dit Vayi ha Adam le nefesh haya. Adam le nefesh haya, sauf et tevot Moshe. Prenez la dernière lettre des trois mots, vous avez Moshe. Donc ça veut dire que grâce à l'âme de Moshe, Adam a pu vivre. Donc en vérité, même dans Adam, il y avait l'âme de Moshe. Et encore, qu'une partie de l'âme de Moshe.
Il dit quand il dit qu'il vient d'une sphère inférieure,
il vient d'un autre monde.
Au début, on n'était pas prêt à faire descendre Moshe directement.
Non, parce que Moshe ne pouvait descendre qu'au moment. Moshe fait partie de ces tzadikim-là, qui ne descendent que dans des moments de Géoula, où il faut une Géoula. C'est l'âme du Goël, c'est l'âme du libérateur. Donc Moshe ne descend que pour délivrer. Il ne descend pas Stam. Quand il y a une délivrance, à ce moment-là, ou lui-même descend, ou un rayonnement de lui descend. Par exemple, lui-même descend, sorti d'Égypte, lui-même redescendra la délivrance finale, et entre les deux, c'est des rayonnements de l'âme de Moshe. Mordechai était un rayonnement de l'âme de Moshe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un besoin de délivrance, à ce moment-là, l'âme de Moshe agit. Il est là pour ça. Moshe, il s'appelle Goël, c'est le libérateur.
C'est l'incarnation d'Adam Kadmon sur Terre.
C'est l'incarnation d'Adam Kadmon sur Terre, absolument. Absolument. C'est l'âme fondamentale, c'est Adam Kadmon, Moshe Rabbeinu. C'est le modèle fondamental créé par Dieu à partir duquel tout découle. Ça, c'est l'âme de Moshe. C'est une âme inimaginable, c'est l'âme du Mashiach. C'est une âme inimaginable qu'on ne peut même pas imaginer. Puisque d'après ce qu'on explique, que Adam Harishon n'avait qu'une partie de l'âme de Moshe, et que Adam Harishon contient toutes les âmes, y compris des nations, vous comprenez donc bien que même les 70 peuples, la racine de leur âme, c'est Moshe Rabbeinu. Et vous donc comprenez pourquoi la Bible est le livre le plus lu au monde. Puisque tous les hommes se retrouvent dans la Bible. Puisque tous les hommes, sans le savoir, sont des rayonnements de l'âme de Moshe. Donc c'est pour ça que la Bible est le seul livre universel qui n'est pas, qui est incontestable.
On est tous des frères.
D'accord. Et on est tous par l'âme de Moshe. C'est ça l'unité profonde qui règne dans la création à un niveau très... Mais c'est ça ce que le libérateur va dévoiler. Comment le libérateur va faire que ça s'accomplisse la prière de Rosh Hashanah, Ve'asukula, Maguda, Achat, comment qu'on va faire une ronde, etc. Comment tous les hommes vont s'unir? Parce que tous vont se retrouver dans l'âme du Mashiach, avec bien sûr chacun un rôle et une mission différente au niveau des peuples et au niveau des individus. Mais fondamentalement, l'âme de Moshe contient toutes les âmes de l'humanité, pas seulement les âmes d'Israël, évidemment.
Moshe,
Otiyot
Hashem, ici,
ça
a un sens.
Nahon, évidemment. Ça, c'est dans le Zohar, ça. Moshe, c'est Otiyot Hashem, à l'envers, bien sûr. C'est le nom. C'est le nom. En vérité, plus que ça, Moshe, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire que si tu demandes à Dieu comment tu t'appelles, il va dire « je m'appelle Moshe ». D'accord ? Absolument. Dans le sens que ce que dit le Zohar, que le tzaddik, c'est le nom de Dieu. Comme ça, c'est le Zohar qui dit ça.
D'où le risque aussi que ça dérape, qu'on confonde l'intermédiaire.
De tous les risques des fausses religions qui font du fils le père. Vous voyez ?
C'est vrai, parce que est-ce qu'il y a un rapport entre Moshe qui est sorti de l'eau, selon qu'on a tiré de l'eau,
c'est la même chose, mais bien sûr, le Zohar dit ça clairement. Mm-hmm. Le souffle de Dieu sur l'eau, c'est le souffle du Mashiach, dit le Zohar. Et c'est pour ça que Moshe est sorti de l'eau. L'eau représentant justement quelque chose qui est complètement au-dessus du monde. C'est ce qu'on a étudié il y a quelques mois dans le Semar Tzedek, que le Dafka dans ce livre-là, que Moshe, l'âme de Moshe Bichlal, venait d'un système complètement antérieur au nôtre. L'âme de Moshe vient ce qu'on appelle de Shemitah Rishona. C'est un nom, est dans la Shemitah Shnia. Ça veut dire dans le deuxième cycle de 7000 ans. Mais l'âme de Moshe appartient au premier cycle de 7000 ans que nous n'avons pas connu. Il y a eu avant notre cycle à nous. Nous sommes maintenant dans l'année 5000, donc à la fin du 6e millénaire. Donc on est à la fin du cycle de 7000 ans. Mais il y a eu un autre cycle de 7000 ans avant le nôtre. Et Moshe vient de là-bas. Ça s'est rapporté dans le Zohar, ça. Mais c'est-à-dire que Bichlal, Moshe, c'est quelque chose que... On ne sait même pas par où le prendre. C'est quelque chose qui...
On va rentrer dans Tiferet.
Nahon, on rentre dans le troisième cycle par rapport à Yaakov, dans le troisième cycle de 7000 ans. Comment ?
Imaginez que cette Neshama est toujours en travail dans un monde à part. Ou dans...
Mais rien ne peut exister sans elle.
Non, vous n'avez pas compris. Il y a ce monde-là. Il y a un autre monde, un autre bout du monde. Il se trouve encore, il est en train de délivrer un autre monde. Et à chaque fois, il se rappelle.
Je ne sais pas.
Il est constamment en train de réparer.
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Moshe est dans ce monde, car Moshe ne peut, si l'âme de Moshe n'est pas dans ce monde, le monde ne peut pas tenir. C'est ce qu'on dit au sujet du Mashiach, que s'il n'était pas dans ce monde, le monde ne pourrait pas tenir. C'est-à-dire que l'âme de Moshe, en permanence dans ce monde, elle va de Gilgoul en Gilgoul. C'est ce qui est dit, « Itpash tuta de Moshe bechol dor vador ». Le Zohar révèle ça. Moshe se trouve dans chaque génération.
Quelle bougie
tu... Il se connaît en tant que Moshe, ou il ne se connaît pas en tant que Moshe. On sait qui est le Moshe, on ne sait pas, peu importe. Mais Moshe est là dans chaque génération, sinon le monde ne peut pas tenir. C'est comme une lumière qui permet de voir dans le monde. Si cette lumière disparaît, il n'y a rien.
Le monde devient Moshe, il a disparu.
Oui. Non, c'est pas qu'il a disparu, il a fini son travail.
Un monde comme ça, où ça doit être un monde parfait.
Oui, mais il a fini son temps, comme nous, quand on aura fini le 7e millénaire, on va rentrer dans un troisième cycle de 7000 ans.
Et ça, c'est l'enseignement du Mara, justement. Bereshit, Otiot, Vichérit.
C'est ce qu'on va voir après, justement. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.
Quelle est la source de cet enseignement?